du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici remis devant nos yeux cette grande fresque de la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ au désert. Notre Seigneur, en effet, avant sa vie publique, veut se retirer. Pourquoi donc? Eh bien, pour mieux comprendre, mieux saisir la mission qui va être la sienne, de donner Dieu au monde, de porter cette révélation incroyable jusqu'à mourir sur la croix pour ensuite ressusciter. Eh bien, notre Seigneur, avant cela, veut prendre un temps de silence, un temps de jeûne, un temps où il va retrouver toujours plus profondément, voire intensifier, sa relation au Père. Et c'est ce qui nous est demandé également cette année, lors de notre carême. Nous devons suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans ce qu'il a fait, être tout à Dieu dans le silence et nous laisser porter par l'Esprit dans le désert afin de retrouver notre relation filiale à Dieu. Et cela n'est pas facile. Pourquoi ? Eh bien parce que nous n'avons pas notre petit désert à côté de nous pour, comme notre Seigneur, s'éloigner à quelques encablures et ainsi être dans la solitude la plus parfaite. Il va nous falloir trouver notre désert alors que nous allons rester dans le monde, alors que nous allons continuer nos activités ordinaires et habituelles, alors que finalement, extérieurement, rien ou presque rien ne va changer. Alors il est temps, mes bien chers amis, de s'y mettre. Et il est temps de prendre une bonne résolution, de se dire « Je veux faire de mon carême un véritable désert. » Tout quitter pour retrouver le Christ, afin qu'il y ait 40 jours et 40 nuits où je puisse véritablement expérimenter ce désert, expérimenter ce déluge purificateur dans lequel nous allons laisser tous nos péchés et dans lequel nous allons retrouver, nettoyer, développer l'homme intérieur, celui que nous avons reçu le jour de notre baptême. Mais évidemment, il va y avoir quelques obstacles à cela, et notre Seigneur nous montre l'obstacle par excellence, qui est le diable, celui qui ne veut pas que nous retrouvions Dieu, celui qui ne veut pas que nous progressions spirituellement. Mais le diable n'est pas très malin, mes bien chers amis, et il faut s'en convaincre avec l'expérience qu'il vient de faire de cette déconvenue incroyable face à notre Seigneur. Il cite à trois reprises la Sainte Écriture, notre Seigneur, du tac au tac, lui répond par la Sainte Écriture. On pourrait dire, pourtant, il a bien choisi son moment. Au bout de 40 jours, sans manger, sans boire, notre Seigneur pourrait être exténué de fatigue, dans un état lamentable du point de vue corporel. Eh bien, peut-être qu'extérieurement, notre Seigneur avait faim, peut-être qu'extérieurement, notre Seigneur était un peu affaibli par ses 40 jours de jeûne. Il n'en reste pas moins vrai que l'essentiel de sa mortification ici a été de renforcer toujours plus, si c'était possible, sa force par rapport au diable, sa détermination à lutter contre le mal. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Peut-être que, sous un certain rapport, le carême va être difficile. Peut-être que nous allons prêter le flanc aux attaques du diable. Et on pourrait se dire, peut-être qu'il vaut mieux rester en excellente bonne santé, ou alors de faire tout comme d'habitude, afin de ne pas prêter le flanc aux attaques diaboliques. Eh bien, je pense que c'est une erreur. Il faut reprendre toujours plus des bonnes habitudes, voire même de saintes habitudes de jeûne, et de jeûne effectif, de mortification effective, parce qu'alors, même si extérieurement nous sommes peut-être diminués, intérieurement nous sommes fortifiés. Et alors, les attaques du diable, eh bien, tomberont à plat. Elles n'auront aucun effet en nous, parce que nous aurons renforcé notre être intérieur. Nous pourrons, à l'image de notre Seigneur, résister efficacement au diable. Cette résistance est triple, comme nous voyons dans l'évangile de ce jour. Le diable vient tout d'abord attaquer ce qu'il y a de plus facile. Notre Seigneur vient de jeûner 40 jours, il a faim. Alors il lui demande, tout simplement, il lui propose de faire un petit miracle pour finalement se satisfaire lui-même. On va créer des biens matériels, on va transformer ces pains, ces pierres décidément, en pain afin de pouvoir manger et se restaurer. Notre Seigneur n'en veut pas. Il situe son jeûne, il situe sa mortification comme étant une plus grande écoute de la parole de Dieu. Si je m'abstiens de la nourriture terrestre, c'est pour pouvoir être attentif à la nourriture céleste. Pour nous, c'est la même chose. Nous devons mortifier notre corps pour pouvoir toujours être en attente et en écoute toujours plus fine de la parole de Dieu qui se manifeste de mille et mille manières. Mais malheureusement, nous sommes trop empêtrés dans les choses de la terre pour pouvoir l'entendre habituellement. Donc il est bon pendant ce carême de faire attention à la mortification, au jeûne, à tous les petits sacrifices que le bon Dieu nous demande afin d'entendre la parole de Dieu. Et alors, eh bien, nous pourrons progresser dans cette dimension filiale parce que nous connaîtrons Dieu. Dans une deuxième tentation, le diable va comme proposer un miracle de la part de Dieu cette fois-ci. Il faudrait que le Christ se jette du haut du temple, ce qui est absurde, mais parce que les anges, c'est-à-dire que le bon Dieu, enverrait ses anges pour sauver notre Seigneur. Et là, il y a un deuxième refus. Premièrement, parce que cela est stupide, et donc il ne faut pas agir de manière stupide. Mais c'est surtout une raison beaucoup plus profonde. L'homme ne doit pas tenter Dieu. Qu'est-ce que cela veut bien dire que l'homme ne doit pas tenter Dieu? C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre le bon Dieu dans une situation où il va, où il devrait nous aider alors que nous avons fait des bêtises. Ça veut dire que pendant notre carême, nous devons faire attention à renoncer toujours plus aux occasions prochaines et lointaines au péché. C'est pas très compliqué. Nous savons très bien qu'il y a certaines occasions où si nous mettons dans ces occasions, nous allons forcément pécher. Si je me remets à mon ordinateur après dîner, juste pour regarder mes mails, je sais que je ne vais pas y rester 10 minutes. Je sais que je vais y rester 1 heure, voire 2. C'est une occasion prochaine de faute, de temps de perdu. Donc il faut prendre la résolution de ne pas se mettre en occasion prochaine et donc de se dire qu'après dîner, je n'allume pas mon ordinateur, ou plutôt je l'éteins parce qu'il est forcément déjà allumé. De même, si je sais que je vais critiquer forcément telle ou telle personne, eh bien il ne faut pas commencer d'en parler, même en bien, parce qu'on sait bien que ça va commencer en bien et ça terminera fort mal. Alors il ne faut pas commencer du tout, parce qu'au début ce n'est pas un péché, mais c'est une occasion prochaine de pécher. Et cela, il faut regarder dans vos vies, et je ne vais pas multiplier les exemples, vous m'avez fort bien compris, il faut éviter les occasions prochaines de pécher. C'est absolument fondamental pour grandir dans notre vie spirituelle. Donc faire attention, développer un peu la vigilance. Quelles sont les fautes qui sont récurrentes? Parce qu'elles sont forcément récurrentes. On ne commet pas tous les péchés de la terre. On commet telle, telle et telle faute. Eh bien, quelles sont les occasions prochaines pour moi de pécher dans tel, tel, tel domaine? Eh bien, je les supprime. Et si on les supprime, eh bien, il y aura peut-être de fortes tentations. Mais au moins, ce n'est pas nous qui avons finalement obligé le bon Dieu à nous donner une grâce incroyable pour pouvoir sortir du pétrin dans lequel nous sommes mis. Donc il ne faut pas, on ne se jette pas du haut du temple en disant le bon Dieu va gérer l'affaire. Non, s'écrase et s'effondre. Troisième tentation, l'adoration du diable pour les honneurs. Et effectivement, nous aimons forcément un peu les honneurs. Mais ici, quelle est la pointe, j'allais dire, de la tentation du diable? C'est pour notre Seigneur, qui est véritablement le Messie, pour notre Seigneur qui est véritablement roi et qui va le devenir au titre de sa rédemption. Le fait de le devenir sans passer par la croix. Parce que s'il adore Satan, Satan lui donne tous ses royaumes. Déjà, promesse légèrement mensongère. Il s'agit de voir pour nous dans nos vies que le diable peut nous promettre mille et mille choses, mais qu'en fait, ça termine souvent en déconfiture la plus totale. Mais il n'empêche, ici, il lui propose de régner finalement sur son royaume sans passer par la croix. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Nous ne devons pas, pendant ce carême, supprimer la croix. Nous devons, au contraire, la regarder, la prendre avec nous et l'embrasser. C'est-à-dire faire tous les sacrifices que le bon Dieu nous demande et les trouver avec notre intelligence illuminée par le Saint-Esprit. Nous devons donc mettre le bon Dieu à la première place, mais surtout lorsqu'il nous propose de prendre telle ou telle croix. Et vous savez, parce qu'on le dit souvent, Saint François de Sales recommande toujours de ne pas forcément se choisir ses croix, mais d'accepter avec un grand cœur les croix que le bon Dieu va nous donner. Il n'en reste pas moins vrai qu'il faut faire travailler notre intelligence pour se mettre véritablement au carême. Et là, je pense que dans ce très bel évangile, dans la tentation du Christ, il nous est demandé de faire un bon acte de force en ce début du carême. Il faut arrêter d'arriver, mes bien chers amis, depuis de nombreuses années, à tous les carêmes, en fin de carême, et de dire « Je n'ai pas bien fait mon carême ». Pourquoi ? Uniquement parce qu'on ne l'a pas voulu. Uniquement parce qu'on n'a pas pris les moyens, dès le mercredi décembre, dès le premier dimanche de carême. Ce n'est pas bien de ne pas faire ce carême. Et je le dis très sérieusement, parce qu'on peut effectivement se confesser à la fin du carême, juste avant Pâques, en disant « Je n'ai pas bien fait mon carême ». C'est vrai, mais vous avez sans doute pris une résolution l'année dernière, et bien de le faire bien cette année. Sinon, il n'y aurait pas eu une vraie contrition. Sinon, il n'y aurait pas eu une vraie résolution. Alors cette année, il faut bien le faire, parce qu'un jour, le carême se terminera, et c'est devant notre Seigneur, et on verra qu'on n'a pas bien fait son carême, sauf que l'heure du pardon sera passée. Et donc, on n'aura aucune excuse. Parce que si les gens vivent mal dans le monde, eux, ils ont peut-être des excuses. Ils ne reçoivent pas toutes les grâces dont nous avons la chance de bénéficier. Parce que nous savons ce qu'est le carême, nous savons qu'il y a des grâces particulières qui sont attachées, nous savons que l'Église en entier, le pape à sa tête jusqu'au moindre des fidèles, fait pénitence. Et donc, c'est toute l'Église avec des grâces incommensurables qui nous sont données. Et alors, devant notre Seigneur, que dirons-nous? Il nous a tout donné, et là, nous serons mués comme des capes, parce que on n'a rien fait. Alors, mes bien chers amis, il faut se mettre à l'œuvre. Il faut se mettre à l'œuvre généreusement, sérieusement, efficacement, avec la grâce de Dieu, ainsi soit-il. Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.